Le jardin de mon père est une invitation à remettre les mains dans la terre. Passionné par la nature depuis son enfance, mon père en a fait son métier. À la retraite depuis 20 ans, il est à l'origine de nombreuses initiatives, événements, dans le Tarn et la ville de Gaillac qui font référence sur le jardinage au naturel. Alors aujourd'hui, il veut se faire plaisir en partageant sa vision, ses observations, son expérience du jardinage avec vous. Dans cette aventure père et fils, eh bien, c'est l'occasion de l'accompagner en mettant nos différentes compétences au service de la transmission intergénérationnelle. Alors sans attendre, on vous invite vraiment à poser vos outils de jardinage pour un instant et de vous installer dans un endroit confortable, sur une bonne chaise, sous un arbre, à l'ombre, pour écouter le podcast « Le jardin de mon père ». Bonjour, bonjour. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés.
Oui, dis donc, ça fait combien ? 2 ans et demi, non ?
Non, t'exagères. On en est au 5e mois. Je veux dire, voilà.
Désolé, hein, mais bon, on ne fait pas toujours comme on veut.
Oui, mais je trouve que tu as une petite voix ce matin, c'est normal.
Ah oui, en 5 ou 6 mois, j'ai rajeuni.
Ah, d'accord, très bien. Et puis, on n'est pas tout seul ?
Non.
Parce que je passe la main, fièrement. L'année dernière, on a fait ce podcast tous les deux. Mmh. Hein. Et puis là, on s'est dit que... Bah déjà, moi, je n'avais pas forcément le temps de continuer. Mais en plus, une touche féminine pourrait apporter une autre perspective au jardin.
Oui, et puis moi, je commençais à me lasser aussi. Alors, donc, ça ira très bien.
Alors, qui nous rejoint ?
Bonjour, Sandrine.
Alors, Sandrine, dis-nous qui tu es, ce que tu fais ?
Je travaille donc à la médiathèque de Carcès et Monsieur Huet s'est rapproché de nous pour savoir si on voulait bien être partenaire pour le podcast. Et donc, c'est bien volontiers et ça va être, je pense, très intéressant.
Super. Pourquoi vous avez accepté ?
Parce que c'est une problématique de maintenant qui déjà nous soucie beaucoup en tant que bibliothécaire, puisqu'on a beaucoup de livres sur les changements climatiques et la permaculture ou comment avoir des nouveaux potagers. Donc, ça peut être très intéressant pour nous de doubler ça, de coupler ça, effectivement, l'analyse de M. Huet, ou en tout cas les informations qu'il peut nous apporter, les nouvelles idées qu'il peut nous soumettre pour répondre à cette problématique-là.
Super. Bah écoutez, t'es content, toi ? Ça va te changer ?
Oui, très bien, oui, ça va m'occuper. Et puis, ça va me faire réfléchir un petit peu, parce que vous avez parlé d'un problème, hein, c'est le... renouveler un petit peu nos modes de culture.
C'est ça.
Oui.
Et quand je dis renouveler, je suis bien embarrassé pour dire il faut faire comme ceci ou faire comme ça. Là, on va le voir dans les conversations qu'on va avoir.
Oui, surtout.
Ce n'est pas évident du tout. Même pour les professionnels. Essayer d'interviewer des professionnels de la pépinière ou de l'horticulture ou du maraîchage, on a essayé. Bon, déjà, ils n'ont pas souhaité s'exprimer apparemment, hein, parce qu'ils doivent être très embarrassés.
Bien sûr.
Je pense que c'est ça le problème, c'est qu'ils sont embarrassés. Je pense que les consommateurs sont moins embarrassés, ils donnent l'impression d'être moins gênés par cette situation que les producteurs.
Oui, alors les consommateurs, oui, mais toutes les personnes qui ont un jardin, par contre, sont dans la même situation que les producteurs.
Exactement.
Oui, tout à fait, oui.
Il y a même, j'ai entendu dans le village ici, des gens dire, et même d'où je viens, qui ne vont pas refaire de potager, parce que dans un premier temps, c'est trop compliqué pour eux. Et il y a surtout le problème de la raréfaction de l'eau. Il y a non seulement la chaleur, hein, mais il y a aussi la problématique de l'eau. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir arroser ? Est-ce qu'on aura de l'eau ? Apparemment, ici, le problème semblerait résolu dans les potagers. Là, l'eau ne serait pas coupée. Mais est-ce que ce sera partout pareil ? Est-ce qu'il y aura de l'eau partout, comme il peut y en avoir à certains endroits ? Mais pas à côté, ça monte, ça descend, mais ça a plutôt tendance à descendre. Hein. Donc c'est vraiment, on est dans une situation, excusez-moi l'expression, mais on est entre deux chaises.
Hein. Mm.
On ne sait pas, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir ? Nous, on n'est pas, est-ce qu'on est suffisamment informé ? Est-ce qu'on est suffisamment raisonnable ? Est-ce qu'on a vraiment compris la situation pour... faire vraiment avoir une réaction positive, c'est-à-dire je vais moins gaspiller, je vais moins consommer, je vais faire attention à ne pas acheter l'eau, je vais garder l'eau de mes lavages de salade au lieu de la foutre en l'air, j'irai peut-être arroser la jardinière du voisin, enfin je sais pas, des bricoles comme ça, élémentaires, mais qui sont pédagogiques, c'est-à-dire qui incitent les gens à réfléchir sur la situation et adopter des nouvelles attitudes.
Ouais.
C'est pas évident. Hein.
Parce que même si les gens gardent plus d'eau, la problématique étant quand même qu'il fait de plus en plus chaud. Et du coup, en fait, c'est l'effet inverse. Il faut de plus en plus d'eau pour garder son potager.
Exactement.
Parce que ça devient très compliqué.
Ouais.
Donc, même s'ils récupèrent de l'eau avec les restrictions d'eau qu'on a eues, par exemple, l'année dernière, c'était quand même compliqué au vu de la chaleur de pallier et de garder un potager
Absolument.
en vie.
Absolument. Alors, ça amène à différentes attitudes, à réfléchir sur les modes de culture, la durée des cultures et ce qu'on va cultiver.
Changer nos habitudes.
Changer nos habitudes. Et puis, en quatrième position aussi, est-ce qu'on va toujours avoir les moyens de faire venir des tomates du Zanzibar ou du Venezuela en mois de décembre? Parce que il y a aussi un autre phénomène. Je ne sais pas si les gens ont bien saisi ce cas, c'est que ce n'est pas un phénomène européen ou varois, c'est un phénomène planétaire.
Mondial. Les gens veulent tout
Alors,
à tout moment de l'année.
hein, c'est un phénomène planétaire. Bon, alors peut-être qu'en Norvège, il fera moins chaud
Bien
qu'ici,
sûr.
bon, mais ce sera de quelques degrés. Et ils seront impactés eux aussi. Hein. En Amérique du Sud, certainement que ça va chauffer encore. Il y a des régions d'Amérique du Sud qui sont désertiques. Il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est planétaire. Donc, est-ce qu'on pourra encore avoir recours à des légumes qui sont cultivés à l'autre bout de la planète,
Bien
hein, dans
sûr.
l'hémisphère sud, à contre-saison de la nôtre? Je ne sais pas, on ne sait pas. Tout ça va être fonction de l'évolution du climat.
Bien sûr.
Bon, alors le GIEC nous dit que ceci, que cela, que ça va. Bon, mais est-ce que ça va aller vite? Est-ce que ça va être progressif? Dans combien de temps? Est-ce que c'est dans 10 ans? Est-ce que c'est dans 30 ans? On ne sait pas. Et ils ont du mal à évoluer,
Par
à
contre,
évaluer, pardon.
ce qui est clair, c'est que ce n'est pas une période de crise. C'est qu'il y a
Non.
une réelle évolution, il y a une
C'est un changement. C'est
transformation,
un changement.
un changement climatique. Et donc, ça implique systématiquement un changement de pensée. Et je parlais dernièrement avec la directrice de la maison de l'eau à Barjol, et qui disait que d'un aspect sociologue, il y a quatre aspects. Déjà, être informé. Je pense qu'aujourd'hui, on est informé par rapport à la situation du dérèglement climatique, quoi qu'on en pense. Deuxièmement, la prise de conscience. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Où il y a un problème aujourd'hui, c'est au niveau d'acceptation. C'est-à-dire que d'un côté, on a toujours, comment dire, tous ces produits qui sont disponibles
Bien
et
sûr.
qui viennent de différents endroits du monde. Donc, il y a ça. Et donc, on ne comprend pas forcément, même si les prix augmentent, on ne comprend pas forcément la précarité ou le risque alimentaire, de santé alimentaire qu'il peut avoir dans les années à venir. Donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un écart entre la compréhension du consommateur et le vécu du producteur dans notre région. Donc en plus, nous, dans le Var, notre région méditerranéenne du sud de la France est en train de se transformer drastiquement, hein. Je veux dire, on voit quand même qu'on va avoir on se dirige vers un climat qui va être subsaharien. Hein. Donc, qu'est-ce que ça implique dans nos modes de vie, etc. Dans notre régime alimentaire, il y a une transformation qui se fait. Ensuite, il y a d'autres enjeux. Hein. C'est-à-dire qu'on parle de la santé alimentaire, mais l'économie numéro un de notre région, c'est le tourisme. Donc, en été, canicule d'un côté, pénurie d'eau de l'autre, l'attractivité de notre région ne va plus être la même. Donc, quels vont être les impacts, quelles remises en question, etc., etc. Ensuite, il y a la notion d'électricité. L'électricité, il faut savoir quand même qu'une partie est générée par les barrages. S'il y a moins d'eau, quel impact justement sur les turbines, des barrages, etc., pour produire de l'électricité, tout en sachant qu'en été, on utilise beaucoup plus d'électricité qu'en hiver, parce qu'en été, dans notre région, il y a justement ces canicules de plus en plus présentes. Et donc, les gens utilisent de plus en plus la climatisation. Donc, voilà. Donc, ça remet en question beaucoup de choses. Ce n'est pas facile à traiter. Mais c'est sûr que la santé alimentaire et la préservation de la ressource eau est un des éléments essentiels pour l'humanité, pas seulement pour l'humanité d'ailleurs,
On en parlait justement, on a eu le sourcier du village qui est venu à la maison et qui nous disait, on est arrivé à un stade aujourd'hui des nappes phréatiques, c'est que quand l'eau tombe, quand il y a de la pluie, les premiers services, ce sont les arbres.
Heureusement.
Oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, tout ce
Les
qui
nappes
tombe.
phréatiques ne seront remplies
Oui,
plus.
exactement, parce que les arbres disent.
Elles sont au niveau de août l'année dernière.
Eh oui, sauf
Elles n'ont pas
qu'on
bougé.
réattaque avec une période très
Voilà.
peu de pluie
Donc,
et on
elles
arrive
vont,
là, on le sait,
elles
dans la
vont
période
encore
chaude.
baisser. Elles vont encore baisser.
Hein?
Et ce n'est pas les pluies qu'on a eues dernièrement
Non.
qui ont pu recharger.
Non.
Ça a fait beaucoup de bien aux végétaux qui commençaient à. Et puis qui étaient en plein débourrage.
Oui,
Hein?
mais c'est sur ce qui est en terre. Ça fait
Voilà.
du bien à ce qui est en terre, mais effectivement, ça ne re-remplit pas les nappes.
OK.
Mais bon, j'ai regardé dans les rues, là, les jardinières. Et en ville, la couche de terre est mouillée sur à peu près 8 à 10 cm. Mais ce n'est pas descendu, je trouve. Malgré, on a eu l'impression qu'il a plu beaucoup. Hein? Bon, enfin, peut-être violemment pendant un certain temps. Mais en définitive, il a pas mouillé beaucoup. Hein? 8-10 cm de terre mouillée dans les jardinières du village. Hein? Et pourtant, il y en a des grosses jardinières, donc il y a une entendue de réception
Bien sûr.
relativement importante. Pour certaines, ça frise le mètre carré. Hein?
Et là, tu parles de jardinière, mais dans l'environnement naturel, l'érosion des sols, donc c'est des sols qui sont extrêmement durs. Donc l'eau a du mal à pénétrer.
C'est ça.
Et donc l'eau part directement dans les rivières et dans les rivières, dans la mer. Ce qui fait que ça ne bénéficie pas au sol. Et je
Et à
trouve.
la vie, et à la vie du sol. Parce qu'il y a un contre-coup aussi. S'il n'y a pas d'humidité dans le sol,
Bien
il n'y
sûr.
a plus d'activité organique.
De toute façon, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes maintenant, c'est qu'on a des gros orages, certes,
Qui lave,
mais qui lavent
qui
parce que les
détruisent.
périodes sans eau sont trop importantes. Donc effectivement, ça ne remplit plus les nappes.
Eh oui.
Et effectivement, c'est le vrai problème du coup de notre région. Et c'est pour ça que l'année dernière, on s'est retrouvés, même avec le canal, nous, dans le village, par exemple, qui a été coupé.
Eh oui, eh oui.
Donc ces personnes-là qui avaient un accès à l'eau pour leur potager, par exemple, se sont retrouvées
Et privé d'eau.
privées d'eau.
Donc c'est intéressant parce que quand on parle de santé alimentaire, on parle aussi, si les anciens étaient autonomes plus ou moins au niveau du potager, c'est-à-dire qu'ils avaient la possibilité d'avoir des fruits et des légumes, etc. Et même ça, c'est remis en
C'est
question.
ça.
Même ils avaient de l'eau.
Oui,
Oui,
mais avec le manque d'eau, même ça est remis en
mais... Et ils
question.
avaient des habitudes alimentaires qui étaient saisonnières.
Oui, mais même les gens qui veulent respecter les habitudes alimentaires et planter leurs légumes au bon moment pour avoir un potager et consommer les légumes de saison, en fait, il y a quand même des périodes où ils ne peuvent pas garder leurs légumes parce qu'ils ne peuvent plus les arroser. Donc même sans vouloir participer à cette consommation hors période et tout ça, si on veut avoir un potager et avoir nos légumes de saison, ben malheureusement, on se rend compte que l'été, ça devient compliqué.
C'est ce
Sur une moitié
que
d'année, c'est compliqué.
c'est ce dont je parle dans ce que j'avais écrit. Mais c'est, je suis pas le seul à penser ça, hein. Les maraîchers de la région ont commencé à arrêter de cultiver, enfin de produire. Juillet-août, voire certains 15 juin, 15 septembre, c'est-à-dire de 2 à 3 mois. Qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire, ça va obliger à faire des semis plus tôt pour pouvoir récolter avant la sécheresse. Et quoi manger pendant la sécheresse? Avant, on mangeait des conserves l'hiver. Est-ce qu'on ne va pas être obligé de manger des conserves l'été? Parce qu'on va pouvoir cultiver des légumes plus tôt, en prenant quelques précautions au niveau des semis, qu'il vaudra mieux faire à l'intérieur, parce qu'ils seront protégés des éventuelles petites gelées tardives, enfin, précoces ou tardives, peu importe, ou intempestives, comme on voudra. Hein. Le fait de faire des semis à l'intérieur, ça limite aussi l'arrosage, parce que quand on fait des semis dans un rayon et qu'on passe avec l'arrosoir, on met beaucoup plus d'eau que dans des petits
Bien
pots
sûr.
à la maison, où on a 50 godets à arroser, ce n'est pas du tout la même chose que 10 ou 15 rangs de semis dans le potager. Donc on fait des économies d'eau, ce qui n'est pas négligeable. Hein. On va aussi pouvoir planter des plantes à l'abri, pour ceux qui veulent, en prévision de gelée printanière.
Oui.
Ça peut arriver, vous avez eu le mois de mai l'année dernière. Bon. Donc ça va. Et puis arriver au mois de juin. Bah bientôt, il n'y aura presque plus rien dans le jardin à récolter parce que on va arriver dans une période juillet-août avec du soleil non seulement manque d'eau, mais aussi un soleil brûlant. Mm-hmm. On l'a vu l'année dernière, le soleil brûlant. Moi, je me souviens, Liane avait acheté des haricots verts sur le marché. Ces haricots verts qui étaient longs, qui étaient 10-15 cm, étaient creux.
Oui.
On a vu dans le village, sous les figuiers, des figues qui sont grosses comme le bout du doigt, sèches, qui tombaient. Hein. Donc on va avoir ça. Donc les légumes feuilles vont être fanés. Les légumes frits risquent d'être brûlés ou tout petits. Hein. Et les légumes racines risquent d'être plus petits aussi, fibreux, voire durs.
Bien hein. sûr.
Bon. Déjà, si on prend une boule de céleri, c'est quand même dur, une boule de céleri. Et s'il n'y a pas d'eau, ça va être en plus fibreux et encore plus dur. Mmh. Donc c'est... Il y a vraiment des choses qui s'empilent les unes sur les autres et qui fait que moi je me pose des questions et je ne sais pas, à part ce que je viens de dire au sujet de la précocité des semis, hein, d'avancer les semis et de ne plus cultiver pendant l'été, je ne sais pas vraiment quel conseil donner aux gens pour cultiver. Changer, les seuls conseils que je peux leur donner, c'est déjà observer les légumes qui ont le plus souffert. Hein, se remémorer les légumes qui ont le plus souffert l'année dernière, qui était une année hyper chaude, hein, la plus chaude qu'on ait enregistrée jusqu'à maintenant. Donc ils ont vu ça. Moi j'ai vu des tomates brûlées,
ouais.
hein, des aubergines brûlées, les poivrons allaient s'en sortir, les légumes feuilles, hein, les feuilles tombaient. Bon. Donc déjà ça permet d'apprécier la situation et de se dire, bon bah on va peut-être plus pouvoir faire telle ou telle variété de tomates. On va peut-être être obligé de faire des tomates moins grosses, plus...
Oui, les tomates cerises ont très bien marché l'année dernière, alors que les autres n'ont pas tenu.
Il y a aussi une plante qui est tomate en arbre, hein, le siphomandra. Moi, j'en avais fait chez moi, mais il fallait le rentrer à la maison. Maintenant, on pourra peut-être le faire dehors. C'est des petites tomates qui sont grosses comme ça, qui font quoi, 3-4 cm et légèrement ovoïdes, hein, bon, etc., etc. Il y a les légumes exotiques. Oui, les légumes exotiques, lesquels? Parce que les légumes exotiques, qu'ils soient exotiques ou qu'ils soient... européen pour germer, il y a besoin d'eau.
Oui.
Donc on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt à l'intérieur ou en godet pour économiser de l'eau. Une fois qu'on les a plantés dans le jardin, il faut les arroser un peu pour repartir. Ils ont besoin d'eau. Mais après, pour arriver à maturité, pour être exploitable de façon alimentaire, on revient à ce qu'on disait, fibreux, petit, brûlé. On peut plus, c'est plus possible. D'un côté, il y a la flotte, le manque d'eau, et de l'autre côté, il y a la brûlure du soleil. C'est pas évident du tout, c'est pas gagné. Hein.
Non,
c'est pas gagné. Et je vois que les jardiniers qui font des potagers ici se posent des questions, et certains me disent, bon... Oui, je voulais ajouter quelque chose, d'ailleurs tu en as parlé tout à l'heure. Tu as dit qu'ici, à la médiathèque, il y avait tout un tas de petits bouquins intéressants sur le jardin. Alors, il ne faut pas vous en priver, hein, parce que je peux expliquer certaines choses, mais je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas toutes les recettes, surtout compte tenu de la situation. Je vais citer deux petits bouquins, tout simplement, d'ailleurs je t'en ai parlé.
Oui.
Hein, ça concerne les jardins fruitiers pour demain. Il y a un jardin d'expérience qui a été fait en Corse par un type du nord de la France, hein, Robert Crane, qui a un parcours extraordinaire et qui a créé donc ce jardin avec une quarantaine d'espèces, avec une quarantaine d'espèces qu'il a plantées, qu'il a observées venant de pays exotiques, hein, et Afrique, Asie, etc., etc., qu'il a implanté donc en Corse, dans le Cap Corse, dans la région de Calvi, et il a fait un petit bouquin sur ces espèces-là, c'est intéressant. On voit que ça commence à bouger. Par exemple, j'ai lu récemment qu'en Espagne, ils sont en train d'arracher les avocatiers, qui étaient gourmands en eau, pour faire des mangues. Des manguiers. Ils vont planter des manguiers qui seraient moins gourmands en eau. Pendant combien de temps? Parce que si ça continue, peut-être que les manguiers, ils vont avoir soif aussi. Hein, bon. Donc, et puis, alors, un autre petit bouquin sur... Un jardin fruitier pour demain de Robert Crane et Perrine Dupont, c'est aux éditions Terre Vivante. Hein, 40 espèces décrites. C'est quand même intéressant, avec des appréciations personnelles sur ce qu'il a pu observer dans la culture.
Ça peut permettre d'envisager autre chose.
Alors, après, choisir en fonction d'où on habite, hein, du sol, du climat, de la pluviométrie, enfin, etc., etc.
De ce qu'on aime manger.
Ce qu'on aime manger, bien sûr.
La question de ce qu'on aime manger va peut-être être remise en question.
Oui, oui. Exactement. Hein. On revient à la case départ. Est-ce qu'on est venu au début? On mangera ce qu'il y aura. Ça va faire drôle, un peu, quelques-uns. Oui. Et puis, alors, il y a un autre petit bouquin qui est sorti, c'est « Le potager ou les légumes de demain ?»« Légumes et canicules » de Blaise Leclerc. Alors, Blaise Leclerc, c'est un monsieur que je connais de nom depuis très longtemps, toujours aux éditions Terre Vivante, et là, c'est intéressant. Alors, il n'y a pas que ces deux bouquins-là sur le sujet, hein, vous en doutez bien, parce que ça fait parler beaucoup de gens, mais on est dans un stade d'expérience. Hein. On se pose des questions, on n'a pas les réponses à 100%. C'est ça qui est un petit peu, j'allais dire, angoissant. Moi, ça me pose vraiment un problème. Mais je ne sens pas dans l'entourage, et heureusement, tant mieux, hein, y a déjà suffisamment de problèmes comme ça.
Moi, je pense que les gens s'en rendent compte. Je pense que la grande distribution peut-être montre que non, parce que les gens ont la facilité de quand même trouver les légumes tout le temps. Donc, on a l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte.
Pour le moment.
Parce que pour le moment, les gens ont encore accès à ça. Je pense que tous les gens qui ont un potager ou en tout cas qui...
sont beaucoup plus conscients de
la situation. Bien sûr, je pense qu'une grande, enfin, une partie de la population en a très très conscience.
Ouais. Encore faut-il qu'il soit à la campagne, parce que le mec qui est au 11e étage dans une tour à Toulouse ou à Marseille, c'est sûr qu'il ne voit pas les choses de la même manière.
Oui,
d'autant que, comme tu dis, il va dans ses supermarchés, il y a les tomates, les aubergines, même en plein mois de décembre. Hein. Bon, alors,
oui, puis il va y avoir aussi une question d'accessibilité, c'est-à-dire que quand même on voit ces derniers temps comment le coût de la vie a augmenté. Et donc, quel type d'alimentation va être accessible à certaines couches sociales? Et là, il y a une question d'équité quand même qui est importante, hein, qui doit être posée. C'est-à-dire que, est-ce que les personnes les plus précaires vont avoir accès à une nourriture de moins bonne qualité que d'autres, etc. Et quel impact ça va avoir sur la santé des personnes? Donc, il y a un cercle quand même...
Moi, je ne suis pas aussi...
Pessimiste.
Je ne sais pas comment on dirait. Je pense que ça va pas être ça. Ça va surtout être une question d'adapter aux légumes qu'on va produire. Parce qu'on ne va plus pouvoir produire tous les légumes qu'on produisait. On va en produire certains. Je pense qu'il va y avoir une réduction du catalogue, hein, de la palette de légumes. Et que ça va faire drôle aux gens, parce qu'ils vont avoir une impression de privation. Et après, s'ajoute alors la réflexion que tu as fait au niveau du coût, là aussi, parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais que ce soit dans tous les pays européens et ailleurs, on élevait des légumes en serre.
Oui.
On chauffait pour arriver à sortir des légumes très tôt, plus tôt qu'en saison normale. Hein. Est-ce qu'on va avoir des serres où on va...
refroidir.
Pour refroidir, il faut l'électricité. Est-ce qu'on va avoir la capacité électrique, etc. Donc il y a plein de questions.
Vous avez vu ces émissions sur les serres verticales, avec les plantes sont dans des pots, hein, sur des plateaux qui tournent avec des éclairages qui augmentent la durée de luminescence de la journée, au lieu d'être une journée normale avec 8 heures, 10 heures, 12 heures d'éclairage. On met 3-4 heures de plus pour accélérer le machin. Est-ce qu'on va... Non mais c'est là, moi, où je me pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Parce que on revient à la case départ, ce que tu as dit au sujet des jardiniers lambda qui voient leur potager...
Réduire.
Après, je pense que nous, consommateurs, on va faire ce qu'on nous propose. Parce que malheureusement, une grosse partie de ce qu'on est en train de discuter là ne dépendra pas du consommateur directement. Donc elle dépendra des choix des politiques et surtout des producteurs et des distributeurs.
Pas oublier qu'il y a 70% des gens qui vivent en ville. Hein.
C'est pour ça.
Ben, ouais, et ça pourrait être l'occasion d'un autre épisode, mais c'est justement revégétaliser nos villes et nos villages. C'est aussi un enjeu important par rapport à ces dérèglements climatiques, les sécheresses, etc. Je veux dire, qui va vouloir se balader dans notre village en plein été quand il fait 40 degrés? Personne. Et ensuite, comment ça va être vivable à l'intérieur des maisons? Ça va être difficile aussi. Donc, le sujet est tellement vaste. compliqué.
La revégétalisation des cités, c'est une excellente idée, mais elle n'aboutira pas. Parce que le problème qu'il y a dans le potager pour cultiver les tomates et puis les salades, ça sera la même chose. Ce sera la même chose en ville. Et en plus, on en sera dans un milieu minéral très proche de la végétation. Donc il y aura une accumulation des chaleurs dans le milieu minéral qui va se répercuter à la plate-bande, même si elle fait 5 mètres de large, et puis qu'il y a 3 strates de végétaux plantés, des basses, des mi-basses et puis des hautes, il faudra trouver les plantes qui vont tenir là-dedans. Mm. Parce que dans les pays, on revient à la case départ, dans les pays où, depuis des centaines d'années, il fait chaud, la végétation, où elle est? Elle est dans les oasis, elle est au bord des rivières,
où il y a l'eau,
des ouèdes, où il y a la possibilité de pomper l'eau par moment, où il y a des remontées des nappes à certains moments. Et en ville, il y a certainement des nappes sous les villes, hein, parce que l'eau, elle ne s'arrête pas à la périphérie de la ville, elle passe dessous. Mais ça ne suffira pas.
Bien, bah, je crois que vous avez de quoi...
faire de prochaines...
Prochaine.
Vous avez de la matière, en tout cas.
On a de quoi faire.
On, bah, merci à vous deux. On essaiera d'être un petit peu plus précis la prochaine fois sur les légumes qu'on pourrait être amené à choisir, hein, pour expliquer qu'il y a des légumes qui sont moins exigeants que d'autres, qui peuvent se cultiver à d'autres périodes, puis il y a des légumes oubliés aussi, hein, etc.
À suivre.
Allez, à bientôt.
Merci Sandrine. Merci papa.
Salut.
Salut.
À vous deux. Bonne